Vous écoutez la grande matinale sur Africa numéro 1, il est 8h43.
Le droit est nous, dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.
Bienvenue à tous. Et oui, vous connaissez les nouvelles mesures du président Emmanuel Macron. On va parler de discrimination et jeunes des banlieues. Quelles sont les mesures gouvernementales et les droits des jeunes des banlieues françaises défavorisées? C'est donc le sujet que nous allons aborder ce matin. Aliou Tal, bonjour Aliou Tal.
Bonjour Phil.
Alors, les jeunes des banlieues sont-ils victimes ou responsables de leur sort?
Question très intéressante, surtout par rapport à l'actualité politique, comme vous le savez. Par rapport à hier, le gouvernement français, en la personne du président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé des mesures pour essayer d'améliorer, entre guillemets, la situation des banlieues. En tout cas, c'est l'objet de la loi. Suite au rapport qui a été confié à Jean-Louis Borloo, et rapport qui a été éjecté, si je peux dire, par ce gouvernement qui n'en a pas tenu compte du tout, mais qui, en lieu et place, a annoncé des mesures. Et ces mesures ont pour objet, effectivement, d'améliorer la situation dans ces banlieues où il y a une grande concentration de populations immigrées. Est-ce que, maintenant, dire que ces jeunes sont responsables de leur sort, a priori, quand on le dit, on peut penser que la question est anodine, elle est très pertinente. Ouais. Beaucoup d'hommes politiques, depuis un temps, ont annoncé des mesures, ont pris des décrets, des arrêtés, ont annoncé dans les médias...
Des mesures qui n'ont jamais véritablement eu de résultats concrets.
Effectivement, qui n'ont jamais eu de résultats depuis 40 ans, ça c'est au niveau gouvernemental. Mais au niveau aussi de la politique décentralisée, la politique de la ville, il y a des choses qui ont été dites. Je me rappelle de Philippe Desvilliers qui, après les émeutes de 2005, disait qu'il fallait envoyer l'armée dans les banlieues et les déloger jusque dans les caves. Ça, c'est hallucinant. Ça veut dire que pour cette personne-là, la responsabilité, ce sont les jeunes des banlieues. Sans compter un autre Nicolas Sarkozy, lui aussi qui allait plus loin, jusqu'à développer une conception eugéniste de la violence, de la délinquance. Ouais. Après, il y a le Karcher, mais avant cela, il avait développé, influencé par des philosophes, dont je ne vais pas citer le nom, pour dire qu'il faut détecter la délinquance dans ces banlieues, depuis les marmots, les petits bébés, comme quoi c'est comme si on est délinquant. Alors que non, c'est le milieu qui détermine l'individu. Je donne un exemple. Dans le quartier du 16e arrondissement que je connais, où je vis depuis 15 ans, il y a les mêmes incivilités que dans les banlieues. C'est juste la typologie, la nature qui est différente. Moi, il m'est arrivé de voir des jeunes que je coachais faire l'amour dans les jardins du Trocadéro, juste pour montrer qu'ils savent faire quelque chose d'utile dans leur vie ou bien pour sortir de l'ordinaire de la bourgeoisie. Donc les incivilités, ce n'est pas typique aux banlieues. Mmh. Il y en a partout, tous les jeunes font des incivilités. On est déterminé par les milieux dans lesquels on est. Comme vous l'avez dit aussi, Sarkozy qui promettait un temps à ces banlieues, aux gens qui sont plutôt chics dans ces banlieues, de nettoyer ces banlieues par la Karcher. Tout ça, ce sont des dires qui font penser à l'inconscient français que la problématique des banlieues est de la faute de ces banlieusards, ce qui n'est pas vrai du tout. C'est un problème national qu'il faut résoudre avec des mesures concrètes et non pas avec des mesurettes comme ce qui a été annoncé hier.
Alors, quels sont leurs droits face aux discriminations pour tous ces jeunes des banlieues françaises, ces jeunes défavorisés?
Alors, ce qui concerne les jeunes, ça concerne leurs parents aussi. Parce que les jeunes, en général, sont issus de l'immigration. Soit ils viennent du pays d'origine pour étudier ou bien pour rejoindre leur famille, soit ils sont nés ici. Et quand ils sont nés ici, en général, ils sont français. Ils sont automatiquement français parce que nés de parents qui ont été naturalisés ou bien ils acquièrent la nationalité française à partir de 13 ans. On les traite comme des étrangers alors que c'est des Français comme les autres qu'on dit autochtones ou de souche malencontreusement. Donc, ces parents doivent écouter ceci, c'est très important parce que c'est en général les parents qui doivent actionner la procédure judiciaire quand il y a des discriminations. Je donne un exemple à Marseille où j'ai été sollicité par des personnes d'origine africaine, noire et arabe qui, dans leur école, sont victimes de discrimination. À chaque fois que leurs enfants arrivent, parfois une minute après 8h30, on refuse leur entrée. Et qui s'est avéré que récemment, il y a une semaine, je viens de là-bas, devant un fait de flagrance, on a refusé pour des Arabes et des Africains, noirs d'origine africaine, et on a accepté pour des personnes de race blanche. Et ces personnes étaient désemparées et voulaient porter plainte. Quand ça arrive, il ne faudra pas hésiter, comme d'autres formes de discrimination. Ça peut être des discriminations à l'embauche, discrimination en fonction de la race, de l'origine, de l'ethnie, de la religion, tout ça c'est prohibé par la loi.
Il faut porter plainte tout de suite.
Il faut porter plainte. Et avant cela, mieux vaut ne pas aller automatiquement parce que parfois on n'a pas le temps ni les moyens de porter plainte. On pense immédiatement à un avocat et des procédures interminables, c'est un fait. Avant cela, ce que je conseille, c'est d'écrire à l'autorité qui a fait la discrimination, qui a refusé l'emploi parce qu'on s'appelle Mohamed ou Abdallah ou Aliou, l'autorité qui a traîné votre dossier dans les procédures de distribution de loyer, non, de logement, plutôt, on a parlé de loyer tout à l'heure, de distribution de logement à caractère social, il y a des gens qui ont des procédures qui traînent.
Ouais.
Et donc tout ça...
Qui durent des années.
Des années. Et parfois, quand il y a une connotation discriminatoire, il ne faut pas hésiter à écrire à l'autorité concernée pour lui demander de communiquer la motivation de ce silence ou de ce retard. Mmh. Parce qu'il y a une loi de 1979 qui a été consacrée dans le code des relations entre l'administration et les usagers qui entre en vigueur, qui dit que l'administration est tenue de vous dire, même si elle décide de garder son silence, quelle est la motivation de son silence. Un mois après ce silence, vous pouvez attaquer directement. Là, c'est pertinent. Le tribunal va donner injonction à l'administration de vous communiquer la suite réservée à votre demande. Ça, tout le monde peut le faire. Juste un courrier. Je conseille ça systématiquement. À partir du moment où vous constatez une discrimination, à partir du moment où votre enfant a des droits et qu'on ne lui donne pas ces droits-là, c'est à vous, parents, de diligenter la procédure. N'allez pas directement voir un avocat ou un spécialiste, parce que vous pouvez le faire vous-même en écrivant juste injonction de motivation. Je vous donne injonction de me communiquer la motivation de votre silence ou bien de votre attitude qui porte un préjudice à mon enfant ou à moi-même. Donc ça, c'est un élément très important. Le principe de toutes ces discriminations relève à la fois, donc, comme je l'ai dit, du Code du travail et aussi du Code pénal. Le Code pénal qui interdit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur appartenance physique, de leur patronyme, ça veut dire leur nom de famille, de leur appartenance ou de leur non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, Bambara, Tukulor, Sarokhle, tout ce que vous voulez,
oui,
à une nation sénégalaise, camerounaise, congolaise, à une race noire, arabe ou autre, ou à une religion, une discrimination vers l'embauche ou une formation, une progression même dans la formation. On peut être employé et ne pas bénéficier d'avancement. On est plafonné, on ne bouge plus parce qu'on est noir ou arabe. Quand ça vous arrive, c'est interdit à la fois par le Code du travail, ouais, et aussi par le Code pénal. N'hésitez pas, cette fois-ci, à porter plainte devant le procureur de la République. Et vous aurez quand même une procédure et vous serez respecté davantage.
Discrimination et jeunes des banlieues, quelles sont les mesures gouvernementales et les droits des jeunes des banlieues françaises défavorisées à l'UTAL? Ça va être ma dernière question. Mmh. Alors, que fait le gouvernement français pour mettre un terme à la ghettoisation et aux discriminations dont font l'objet les jeunes des banlieues sensibles?
On en a parlé à l'introduction. Depuis près de 40 ans ou plus, des politiques ont été donc menées en ce sens pour essayer donc de régler ce problème. En tout cas, c'est ce qui a été dit. Mais rien n'a été fait parce que ces politiques se sont avérées nulles. Parce que le résultat final n'est pas là. Parfois, c'est des politiques qui ont été influencées par l'orientation du gouvernement qui est en place. Selon qu'on est à droite ou à gauche, à l'extrême droite ou à l'extrême gauche.
Exact.
Selon le ministre qui est en jeu. Donc, tant que ce problème n'est pas appréhendé dans le fond, on n'aura pas de solution. Ce qui s'est passé à Marseille récemment, on pensait qu'on est dans un film de western. Ouais. Quand je regardais ça, à un moment, je pensais que c'était dans le western du début du 19e siècle. Ce qui s'est passé, c'est assez grave. Mais la gravité ne se limite pas à ce qu'on voit, ce qui est ostensible. Mmh. Il faut aller au-delà de la profondeur. Pourquoi ces jeunes sont dans cette situation qui les amène à ne plus avoir peur ni de la police, ni de la prison, et même ni de la mort? Parce qu'il y a un état de fait. Quand on voit dans ces quartiers du 14e arrondissement où j'étais il y a une semaine, mais je me dis, de Marseille, mais honnêtement, je ne crois pas à mes yeux en regardant que j'étais en France. C'est parfois même dans certains quartiers de Yumbel ou à Dakar ou de Yopougon, je pense que les gens se sentiraient mieux alors qu'ils sont supposés dans un pays développé. Donc il faut essayer de régler le problème à la base. Ce qui a été annoncé, par contre, pour revenir à la question, hier par exemple par le président français, pour moi n'est pas du tout suffisant. Pour moi, c'est des mesures en trompe-l'œil. Ce sont des miroirs aux alouettes. Le fait de dire qu'il y aura 30 000 places en crèche sur des millions d'individus, on a 1300 banlieues dites sensibles. Plus de 5 millions de personnes, on leur propose 30 000 places, c'est ridicule. Même pas une goutte dans l'océan. On dit aussi qu'il y aura, c'est des mesures, 15 000 places de stage par l'État, pour les élèves qui sont en 3e, et aussi 15 000 pour les élèves qui sont en 3e, toujours par les entreprises. Ça, ce n'est rien du tout. Ce sont des mesurettes, des annonces. Ce n'est pas ça qu'il faut pour régler le problème. Ce qu'il faut pour régler le problème, comme on l'a dit, c'est un renouvellement urbain. La France doit accepter de renouvellement son système urbain et ne pas le faire par la gentrification. Ce qui est pervers, c'est de vouloir changer la réalité géographique de la France en essayant de délocaliser le problème d'un lieu A à un lieu B. Je donne un exemple à Barbès, Rochechouart, où on sent la gentrification. Comme on ne veut pas de cette population étrangère, on va déloger cette population d'ailleurs. On a créé une grande brasserie de luxe qu'on connaît, Brasserie Barbès. En France, il y a Luxor. On a financé ces gens pour qu'ils occupent la place là où il y avait Marlboro. Vous comprenez bien les gens, ouais, qui vendent des Marlboro Blettes pour les déloger. Ce n'est pas ça. Il faudra régler le problème en profondeur. Donc la vraie politique, ce n'est pas la gentrification. La gentrification va déloger le problème et ce problème va s'empirer. La vraie politique, c'est le renouvellement urbain avec des vrais problèmes. Le nœud de la guerre, c'est l'argent. Et c'est là où le président français ne veut pas agir parce qu'effectivement, il y a des politiques qui font qu'on ne veut pas donner de l'argent à une couche sociale par rapport à d'autres. Alors que le nœud de la guerre, en cette question, c'est vraiment mettre des fonds. C'est que certains ministères ne veulent pas, comme en l'occurrence, le ministère de l'économie et des finances, M. Bruno Le Maire et consorts.
Voilà, les droits des jeunes des banlieues françaises défavorisées. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à appeler le standard de la radio africaine pour avoir le numéro de Maître Tal, 0155 07 58 00. N'hésitez surtout pas. Et surtout, il faut favoriser le SMS, c'est bien cela.
Très bien. Et surtout, un conseil, moi, c'est la discrimination parce que maintenant, ça se banalise. Quand ça arrive, que vous constatez des discriminations pour vous-même, ou bien les discriminations qui concernent vos enfants, n'hésitez pas à faire une injonction. Demandez à l'autorité de vous communiquer la motivation. Un mois après, s'il y a un silence, attaquez devant le tribunal pour avoir gain de cause. Autre part, si ce sont des discriminations fondamentales qui concernent votre vie personnelle, votre droit au logement, si c'est des discriminations même qui concernent votre droit au séjour, n'hésitez pas à attaquer directement devant le procureur de la République.
Merci Maître Tal.
Merci Phil.
C'était Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.